La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnin.
Bonjour.
Il y a des élections législatives demain en République d'Irlande et à bien y regarder, elles pourraient bien bousculer les équilibres politiques.
Une élection pour changer le visage de la politique irlandaise. Voilà la thèse défendue par Mary Regan, commentatrice politique pour la chaîne publique RTE. Elle met les choses au point tout de suite. La chose semble plutôt mal embarquée pour le Fine Gael, le parti de centre-droit du Premier ministre Leo Varadkar qui est au pouvoir depuis un peu plus de 2 ans et demi. À 41 ans, cette sorte d'Emmanuel Macron irlandais a beau avoir incarné un temps la modernité et la libéralisation des mœurs conservatrices dans son pays, son gouvernement fait face aujourd'hui à une forte impopularité. On est au moment des bilans d'avant-élection et celui de Leo Varadkar, il faut bien le dire, est plutôt décevant pour beaucoup d'Irlandais, principalement sur la question de la santé, du logement, souligne Mary Regan. En fait, l'un des rares succès qui sont communément reconnus à Leo Varadkar, c'est d'avoir plutôt bien géré le casse-tête du Brexit.
Mais le problème pour Leo Varadkar, c'est que la campagne des législatives a tourné autour de tout, sauf du Brexit.
Et oui, le Brexit, ce non-sujet dans la campagne, reprend Eric Albert dans son article pour le quotidien suisse Le Temps. Il nous raconte comment, au cours du dernier débat télévisé, Leo Varadkar a rappelé combien il avait justement bien géré cette crise majeure avec... Mais son argument du Brexit est tombé à plat face à des rivaux des deux partis de gauche, le Fianna Fáil et le Sinn Féin. Le sujet qui préoccupe les Irlandais, désormais, nous dit-on, c'est le pouvoir d'achat et plus du tout le Brexit. Pire même pour le jeune Premier ministre, à présent que l'épouvantail d'un Brexit dur semble écarté, le Fianna Fáil n'a plus aucune raison de rester dans l'union sacrée centre-gauche, centre-droit qui permettait au gouvernement Varadkar de conserver une majorité au Parlement. À présent, le parti du Premier ministre se retrouve seul et il est devancé dans les sondages donc par les deux partis de la gauche irlandaise. Dans les colonnes du Guardian, la chroniqueuse Una Moulali en arrive au même pronostic. L'élection de demain semble bien partie pour enterrer le statu quo de centre-droit en Irlande. Il y a dans ce pays une envie de bousculer l'establishment qui pourrait coûter son poste à Leo Varadkar.
Et cette soif de changement pourrait bien profiter au Sinn Féin.
Comme nous le rappelle Eric Albert à nouveau pour Le Temps, ça fait un moment déjà que l'ancienne aile politique de l'IRA s'est réinventée comme un parti de gauche plus social que les autres. Dans cette campagne, par exemple, le Sinn Féin propose de construire des milliers de logements sociaux pour contrer l'explosion du nombre de SDF ou encore de ramener l'âge légal de départ à la retraite de 66 à 65 ans, alors que Leo Varadkar, lui, veut le repousser à 67 ans. Ce même Sinn Féin a créé la surprise ces derniers jours en se hissant en tête des sondages. C'est lui, juste devant le Fianna Fáil, qui semble le plus à même d'incarner le changement qu'on vient d'évoquer. Mais ce statut de quasi-favori pour le Sinn Féin a ses inconvénients et ses adversaires, pour l'affaiblir, ressortent les vieux dossiers. La presse irlandaise ce matin, The Journal ou The Irish Independent, pour ne citer que, fait donc ses gros titres sur un meurtre survenu en 2007. Le meurtre de Paul Quinn. Il avait 21 ans. Il a été battu à mort par une bande de 10 personnes dans une grange près de la frontière avec l'Irlande du Nord. Et la thèse officielle, c'est qu'il s'agit d'un règlement de compte entre petits criminels, alors que tout le monde, ou plus ou moins, sait qu'il a été tué par des hommes de l'IRA. Dans The Irish Independent, le Sinn Féin se retrouve donc accusé de ne pas avoir suffisamment et clairement condamné ces exactions. Et la journaliste Maireia Cahill de regretter qu'il aura fallu 13 ans et la pression d'une campagne électorale pour que finalement, ces tout derniers jours, les parents de Paul Quinn obtiennent de timides excuses du Sinn Féin. Dans The Irish Times, enfin, l'édito du jour confirme que l'élection de demain sera décisive pour l'évolution de ce parti aux deux visages pour les Irlandais de plus de 40 ans. En gros, c'est un vestige gênant d'un passé qu'on voudrait oublier, incapable d'en finir avec la culture du secret héritée de l'IRA. Quand pour les jeunes électeurs, le Sinn Féin est le mieux placé pour incarner le changement politique et social.
Mais comme il faut bien quelques infos positives pour terminer la semaine, Camille, vous allez nous reparler du coronavirus chinois.
Et oui, car au-delà du nombre de morts, de contaminés, de confinés en Chine et ailleurs, et bien cette épidémie est une source de bonnes nouvelles pour la presse officielle chinoise qui a clairement décidé de remonter le moral du peuple. C'est Courrier International qui nous confirmait hier cette information déjà lue ailleurs, selon laquelle le Parti communiste chinois a mobilisé près de 300 journalistes envoyés dans la région de Wuhan, d'où est parti le virus, pour en ramener de belles histoires, des histoires édifiantes et résolument optimistes. Sur l'archipel de la propagande d'État, voici donc ce que j'ai repéré pour vous ces derniers jours. Voilà, on commence avec la belle histoire d'un agent de la circulation et d'une infirmière qui auraient dû se marier cette semaine mais qui ont repoussé la noce, le plus beau jour de leur vie, pour rester mobilisés face à l'urgence sanitaire. Mais notre amour reste intact, précise tout de même le policier à travers son masque respiratoire, bien sûr, à la caméra de la chaîne Xinhua News. Sur la page Facebook du quotidien du peuple, avec ce mot dièse « des moments qui font chaud au cœur », des vidéos de volontaires, toujours à Wuhan, qui bravent les consignes de confinement pour aller secourir des animaux de compagnie laissés seuls chez eux après que leurs maîtres ont été hospitalisés ou n'ont pas pu rentrer à la maison. Un article à nouveau du quotidien du peuple qui nous explique que cette épidémie finalement ouvre tout un monde d'opportunités nouvelles. Par exemple, les entreprises chinoises découvrent les avantages du télétravail puisque, c'est vrai, leurs salariés sont confinés chez eux par millions. Idem avec ces articles sur le boom des livraisons à domicile ou des achats de consoles de jeux vidéo pour passer le temps pendant la quarantaine. Je ne reviens pas sur les déclarations de fierté nationale, sur la rapidité avec laquelle les autorités ont réussi à construire deux hôpitaux en à peine 10 jours pour accueillir les patients contaminés par milliers. Pour l'envers du décor, là aussi, je vous renvoie vers le site de Courrier International. Et j'en termine avec cet édito daté d'aujourd'hui à lire dans le Global Times. Le meilleur des vaccins, c'est la confiance, nous dit-on, confiance en le gouvernement chinois, confiance et optimisme. La Chine continuera à progresser, prédit enfin Xinhua News, qui nous livre cette belle leçon de vie. Pour une nation, la plus grande gloire, ce n'est pas de ne jamais échouer, mais de se relever de ses échecs pour briller plus encore. Et croyez-moi, arriver à écrire cela pour un média officiel chinois, c'est déjà aller assez loin dans la remise en question.
Merci beaucoup Camille Magnard pour cette page d'optimisme. On retrouve tout cela sur le site de France Culture, franceculture.fr.